Merci Vincent et bon dimanche. Allô Bouvard sur RTL, c'est jusqu'à midi et ça commence maintenant. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Et bonjour à ceux qui vont participer à notre débat national parce que c'en est un aussi que tous les dimanches nous ouvrons désormais. C'est une question qui peut coûter jusqu'à 75 000 euros et plusieurs années de prison si on y fait une mauvaise réponse. Oh, une question très simple. Est-ce que certains citoyens sont au-dessus des lois ? Alors évidemment, il y a une réponse négative. Personne n'est au-dessus des lois. Mais il existe quelques immunités. L'immunité étant le fait de pouvoir échapper à l'application d'une loi et de façon tout à fait légale puisque d'autres lois ont prévu que l'on pouvait se soustraire à la loi. Alors aujourd'hui, celui qui est le plus protégé, et c'est normal, c'est le chef de l'État. Il n'est pas entièrement à l'abri. Hein. Si jamais on constatait dans son comportement des manquements incompatibles avec ce qu'on attend d'un président de la République dans l'exercice de ses fonctions, ben, il pourrait être destitué ou être traduit en justice. Mais dans la normalité, c'est-à-dire quand il se conduit bien, il est intouchable durant tout son mandat et pendant le premier mois qui suit. C'est seulement ensuite que les ennuis peuvent commencer. Ils duraient longtemps. Regardez Nicolas Sarkozy, hein, que la justice n'a pas lâché depuis la fin de son quinquennat en 2012. Et puis, on ne sait pas ce que M. Macron, lorsqu'il aura terminé son mandat, devra répondre devant la justice. Tout ce qu'on sait, c'est lorsque a éclaté pour la première fois l'affaire Benalla, il a usé d'une formule qui prouve que il avait conscience de cette immunité. Il a dit, en pensant, je pense, aux médias, mais aussi à la police, à la justice et à tous ceux qui peuvent demander des comptes, il a dit qu'ils viennent me chercher. Et je pense que ça sous-entendait « ils ne me trouveront pas ». Alors, il y a l'immunité parlementaire. Je me souviens d'un mot de Philippe Poutou quand il était le candidat anticapitaliste à la présidentielle qui avait dit « je ne comprends pas pourquoi il y a une immunité parlementaire et il n'y a pas une immunité ouvrière ». Bon, cette immunité parlementaire, elle existe et elle protège les sénateurs, elle protège les députés et par voie de conséquence, aujourd'hui, les parlementaires européens. Mais attention, on peut, pour des cas suffisamment graves, on peut demander et obtenir une levée de l'immunité qui est votée par les députés ou qui est votée par les sénateurs ou par les députés européens et à partir de quoi le député ou le sénateur devient un justiciable comme les autres. Et puis alors il y a la Haute Cour de justice. Alors la Haute Cour de justice, elle existe encore aujourd'hui mais figure dans la réforme constitutionnelle qui est toujours en panne de vote parce que le Congrès devait se réunir à Versailles et puis les Gilets jaunes ont pris la place provisoirement et donc elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours et elle est appelée pour l'heure encore à juger les ministres pour des fautes, des délits, des écarts constatés dans l'exercice de leurs fonctions. Bah, souvenez-vous, dernièrement, il y a eu Madame Christine Lagarde qui est une personne tout à fait honorable et très compétente qui dirige aujourd'hui le FMI et qui, pour nombre des actes qu'elle avait commis lorsqu'elle était ministre de l'économie et des finances à Bercy, et passé devant cette haute cour qui d'ailleurs ne lui a reproché qu'une négligence. Et puis il y a eu des immunités mémorables qui ont été levées. Bah, souvenez-vous, Mitterrand pour l'affaire de l'Observatoire, Tapie pour d'autres affaires et même Balkany. Ça prouve qu'au bout d'un moment, on est jugé par ses pairs et renvoyé devant la justice, même si, comme l'ineffable Mélenchon, on adopte cette attitude paradoxale qui consiste à condamner avec la plus grande fermeté, selon la formule en usage, l'immunité parlementaire et à s'en réclamer le cas échéant. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, c'est l'immunité diplomatique. Alors l'immunité diplomatique, elle s'applique à tous les diplomates qui sont en poste à l'étranger, mais également, tenez-vous bien, à leur famille, à leurs invités et même à leurs employés de maison. Alors, vous voyez, personne n'est au-dessus des lois, mais quand même, il y a des gens qui s'en tirent mieux que les autres.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi les auto-écoles freinent-elles la réforme du permis de conduire ? Un rapport vient d'être remis à M. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui passe pour un spécialiste de l'automobile depuis qu'il s'est déclaré partisan de la limitation de vitesse à 80 km à l'heure. Alors, il y a en France 12 000 auto-écoles. Je vais demander au directeur d'un groupe d'auto-écoles son avis. Bonjour, Monsieur Borzakian.
Bonjour, Monsieur Bouvard.
Alors, vous avez plusieurs auto-écoles, hein ?
Effectivement.
Donc, vous êtes très largement partie prenante dans cette réforme. Comment accueillez-vous la principale, enfin celle sur laquelle la presse a choisi de mettre l'accent, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer pour un jeune son permis dès 17 ans, pour peu qu'il ait préalablement pratiqué la conduite accompagnée ?
Ben, écoutez, c'est une bonne mesure dans le cas où la personne est prête pour passer cette formation, en fait. C'est vrai que 17 ans, il y a certains jeunes qui sont prêts à conduire, d'autres qui sont pas du tout prêts. C'est pas un changement pour nous qui nous contrarie.
Attendez, c'est d'autant moins un changement que ça ne sera pas étendu aux autres pays européens, c'est pour l'instant uniquement en France, et que cette autorisation, enfin ce permis donné aux très jeunes, ne sera pas valable pour le week-end et pour la nuit.
Exactement, donc finalement, pour nous, auto-école, que le permis soit passé à 18 ans ou à 17 ans, on va dire qu'il n'y a pas, ouais, y a pas un énorme changement.
Pour le code de la route, la réforme prévoit une initiation à l'école. Bon, mais encore faudra-t-il trouver des moniteurs et les payer ?
Écoutez, vous avez mis le bon mot sur la bonne question. C'est trouver les moniteurs et les payer. C'est vrai qu'on a déjà tout du mal à trouver des enseignants pour apprendre le français. Alors c'est vrai que nous, on se demande, enseignants de la conduite, comment on peut faire en sorte d'apprendre en plus du français et des choses essentielles qu'on doit apprendre à l'école, le code de la route, vu qu'on a déjà du mal à apprendre les fondamentaux à l'école.
Donc, cette réforme, elle est censée répondre aux doléances des usagers, qui sont nombreux, parce que je crois qu'il y a 1,5 million de candidats au permis de conduire.
Exactement.
Chaque année, avec un taux de 60% de réussite, ce qui fait qu'il y a des candidats que vous voyez deux fois. Hein.
Exactement, il y a des candidats de deux à trois fois. Bien souvent, ça s'arrête à trois fois. Mais c'est vrai que l'examen du code et l'examen du permis de conduire, ils sont deux examens qui ne sont pas évidents à obtenir, mais qui sont fondamentaux à la bonne sécurité de toutes les personnes qui sont en déplacement dans les rues et à la bonne continuité de la sécurité routière, qui est quand même un thème quand même très important.
Alors, les usagers s'insurgent également contre les délais d'attente, qui peuvent atteindre 200 jours. Contre les prix à 1800 euros en moyenne qu'ils jugent prohibitifs ou en tout cas au-delà de leurs possibilités financières quand ce sont des très jeunes. Qu'est-ce que vous envisagez pour que, après la baisse de la vitesse, il y ait une baisse des prix ?
Alors, vous savez, le gros problème de notre secteur, c'est qu'on a quand même énormément d'obligations par rapport à la réglementation que la préfecture nous impose. Qui dit grosse réglementation au niveau des véhicules, au niveau des agences, tout ça, ça a un coût. On va dire que sur une heure de conduite qui est facturée 55 ou 60 euros de l'heure en fonction des structures, ouais, le moniteur vous coûte quand même 15 euros brut, plus les charges, plus l'assurance du véhicule, plus l'essence. Vous savez, en fait, ça coûte de
l'argent. Alors, il faudrait que l'État baisse les charges. Et il faudrait éventuellement qu'ils rognent la TVA.
Écoutez, déjà, si on enlève les charges sociales plus la TVA, je peux vous assurer que les auto-écoles joueront le jeu, comme les restaurateurs ont joué le jeu à un moment où la TVA était baissée. Pour le coup, vous savez, ça gêne personne de payer entre 1 000 et 1 500 euros son assurance tous les ans de voiture, mais ça gêne tout le monde de payer 1 500 euros ou 2 000 euros une fois dans sa vie pour apprendre correctement à conduire et vivre le plus longtemps possible avec sa voiture.
Donc, et pourquoi vous opposez-vous si violemment aux plateformes en ligne qui pourraient aboutir à la baisse des prix ?
Écoutez, en fait, les plateformes en ligne, comme vous l'avez dit, en fait, ils ne payent pas leur charge. Ils n'ont pas de local. Ils font appel à des indépendants qui sont en auto-entreprise, donc il n'y a plus de TVA. Vous n'avez plus de charges sociales.
Est-ce que vous iriez jusqu'à comparer cette concurrence déloyale, c'est le terme que certains d'entre vous emploient, à celle qui avait opposé les taxis et les VTC ?
Bien sûr. Et puis en plus de ça, on ne parle pas de la précarité de l'emploi. Ces pauvres moniteurs, une fois qu'on aura tué les 12 ou 13 000 auto-écoles en France, ils vont se retrouver en indépendant. Et puis quand la plateforme vous dira écoutez, on vous paye plus 15 ou 20 euros de l'heure, mais on va vous payer 13 euros, ils seront obligés de dire écoutez, je vais travailler pour 13 euros. Donc c'est la précarité de l'emploi. C'est une dérive totale par rapport aux formations. C'est des problèmes de sécurité routière. Finalement, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que ces marchés sont attribués à des géants qui travaillent avec l'État, qui sont prêts à poser 10, 15, 20 millions d'euros pour déstructurer totalement le marché. Et finalement, c'est vrai qu'on a 20 millions d'euros sur un marché qui en pèse 2 milliards. On a le dos rond pendant 2 ans pour finalement baisser les prix et exploser le système auto-école.
Merci, Monsieur Borzakian. Bon courage et ne lâchez pas le volant.
Merci, c'est gentil. Au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Qu'est-ce que le Brexit va coûter aux Anglais ? Écoutez, très cher. Bon, bien sûr, ils ont été près de 52% à se prononcer en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais enfin, aujourd'hui, où on commence à faire sérieusement le compte des dommages causés, on atteint des totaux qui commencent à être angoissants. Alors d'abord, il y a une échéance que Mme Theresa May avait souhaité repousser de 15 jours pour se donner le temps de rallier les députés dont les suffrages lui manquent, mais bon, on lui a refusé. Et donc, c'est le 29 mars à 22h, heure britannique, mais à minuit, heure de Bruxelles, que commencera le Brexit, avec deux hypothèses. Ou bien il y a eu un accord, et dans ce cas-là, les Anglais et l'Union européenne disposeront d'un délai de transition de 21 mois, et il n'y a pas eu d'accord, et dans ce cas-là, ça commence tout de suite. Il n'y a aucune transition, avec évidemment tous les problèmes que ça peut poser. Je pense notamment aux nouveaux contrôles qui vont paralyser la circulation. Paralyser, oui, le mot n'est pas trop fort, puisqu'il y aura des bouchons pouvant atteindre jusqu'à 30 km de longueur qui vont paralyser la circulation dans l'Eurotunnel. Et puis, je pense alors aux conséquences économiques. Ah là, ça va être quelque chose dont le Royaume-Uni aura du mal à se relever, même si il est épaulé par les 53 États du Commonwealth. Alors, bien sûr, il est déjà prévu qu'il y aura davantage d'échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le Commonwealth, mais ça ne viendra pas compenser exactement les échanges qui avaient lieu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour aujourd'hui ? On prévoit une baisse de la croissance qui pourrait atteindre 2 ou 3 %. Il faudra que les Anglais paient la redevance européenne de l'exercice en cours. On peut prévoir aussi une chute très importante jusqu'à 46 %, disent certains, mais ça me paraît beaucoup, de l'industrie automobile. Une chute de l'immobilier qui pourrait atteindre entre 2 et 3,5 %, mais ça permettra peut-être de se loger plus facilement à Londres, qui est une ville à la fois très, très étendue, horizontale, mais inabordable pour la plupart des bourses. On va en même temps assister à la délocalisation en masse des entreprises qui jugeront plus rentable d'installer leur siège social ailleurs, comme par exemple déjà Sony aux Pays-Bas. Il y aura un chômage qui passera de 4 % à 7 %. 500 000 emplois qui seront menacés, dont 100 000 à la City au Royaume-Uni et 600 000 dans le monde, dont 50 000 en France. Ajoutez à ça l'exode des footballeurs. Ah ben oui, comme il y aura moins de matchs, on aura moins besoin des footballeurs et surtout moins d'argent pour les rémunérer grassement comme on le fait habituellement. Donc les footballeurs passeront également le Chanel. Et puis il y aura ensuite une perte d'activité qui pourra atteindre plusieurs dizaines de milliards. On parle de 129 milliards dans un premier temps. Une inflation qui pourrait monter jusqu'à 6,5%. Ensuite, il y aura une dépréciation de la livre sterling. Alors, ça, c'est peut-être le bon côté. Alors, pas le bon côté pour les touristes anglais qui viendront moins volontiers en France, mais pour les touristes français qui trouveront un petit avantage financier à passer le Chanel. Alors, plus inquiétant, les réactions de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, qui étaient contre le Brexit. Là, dans un premier temps, ils ont suivi le mouvement, mais ils pourraient s'en détacher, ils pourraient provoquer un référendum et demander leur indépendance. Alors, vous voyez, ça aurait des effets incalculables, non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan politique. Il faut avoir une pensée pour les Anglais qui ont été imprudents, mais enfin en remarquant que avant de sortir de l'Europe, ils n'y étaient jamais complètement entrés.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Le gouvernement a passé outre aux recommandations de la commission chargée de la régulation de l'énergie, ce qui fait, et c'était une bonne nouvelle pour les usagers, qu'il n'y a pas eu de hausse de l'électricité le 1er janvier, comme annoncé précédemment. Mais les prix pourraient s'envoler de nouveau au mois de juin. D'où cette question à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Est-ce que le particulier qui produit son énergie lui-même fait un acte rentable ? Et naturellement, pour répondre à cette question, quelqu'un qui est à la fois très proche de l'EDF et très proche des usagers, Madame Caroline Poupet. Bonjour Madame la directrice commerciale.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Est-ce que en facilitant l'accession des particuliers à la production autonome de courant, et notamment par le biais des panneaux solaires, vous n'encouragez pas la désertion des clients traditionnels d'EDF ?
Non, pas du tout. Le phénomène de l'autoconsommation, c'est produire sur place pour consommer sur place, c'est inéluctable. Donc, le groupe l'a bien compris, a lancé un grand plan solaire très ambitieux de 30 gigawatts d'ici 2035, parce que le pays est très en retard.
D'après les chiffres qui sont publiés, il y aurait 30 000 foyers qui produiraient déjà eux-mêmes l'électricité dont ils ont besoin, et on prévoit pour 2030, jusqu'à 4 millions d'usagers qui auraient opté pour cette reconversion. Vous confirmez ?
Je confirme un engouement fort des citoyens pour produire son énergie et je confirme également qu'on a une très forte croissance, je peux témoigner.
Il faut quand même un certain matériel, même si avec le temps il s'est simplifié, pour produire son courant à partir d'un panneau solaire ou d'une autre source d'énergie.
Tout à fait. Ben, pour l'énergie solaire, il suffit de panneaux solaires, d'onduleurs pour transformer le courant continu en courant alternatif compatible avec la maison et le réseau.
Il ne suffit pas de produire des ampères, encore faut-il les stocker, hein ?
Alors, je dirais que l'essentiel, c'est de bien dimensionner l'installation par rapport aux besoins en électricité du foyer.
Alors, on entre là par le biais de considérations économiques et financières dans un autre monde, puisqu'on sait maintenant qu'on peut, lorsqu'on produit de l'électricité de façon artisanale, on peut l'injecter dans le réseau électrique général. Et on peut revendre ce surplus d'électricité ou même toute sa production à EDF.
Exact.
Alors, on peut ainsi économiser la moitié de sa facture d'électricité, à condition, bien sûr, d'avoir fait les installations nécessaires et au meilleur prix.
Exactement. On peut jusqu'à 50% de sa facture gommer l'électricité en la produisant soi-même.
Alors, question tout à fait hors sujet, mais apparemment, qu'en est-il des privilèges qui étaient accordés depuis, après la libération, aux agents d'EDF et GDF ? Est-ce qu'ils paient toujours aussi peu cher leur énergie ?
Alors, effectivement, il y a de moins en moins de contrats de ce genre, oui. Je laisserai le groupe vous répondre sur le sujet, mais c'est toujours possible.
Vous savez de combien est la diminution de prix qu'il aurait consenti ?
Non, je ne le sais pas.
Mais est-ce que vous savez que ce sont à la fois les agents en activité, ceux qui sont à la retraite, et que ça concerne non seulement leur résidence principale, mais éventuellement leur résidence secondaire ?
Je ne sais pas vous dire.
Oui, ça ne vous paraît pas intéressant ?
C'est pas que ça ne me paraît pas intéressant, c'est que je n'en bénéficie pas. Et je ne connais pas les conditions d'éligibilité.
Non, mais ça, si vous voulez, ça peut amener, quand on connaît les chiffres, ça peut amener à ce qu'on ne produise pas son courant soi-même, mais qu'on prenne de l'emploi comme agent de l'EDF.
Alors, figurez-vous qu'il y a des agents EDF qui investissent dans l'énergie solaire. Et pour la transition énergétique, pour le geste d'une part et pour la contribution à l'indépendance énergétique du pays.
Donc, un grand merci pour nous avoir mis au courant, Madame Poupet. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Bouvard.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Le mot de la semaine, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, et notamment à propos des manifestations, surtout lorsqu'elles devenaient violentes, des gilets jaunes. Alors, phonétiquement, l'étal n'a longtemps désigné que la table sur laquelle on expose les produits en vente sur le marché. Et puis, le bon docteur Hollande s'en est servi pour qualifier la potion, à l'aide de laquelle il souhaitait qu'on puisse hâter les fins de vie. Et puis le relais a été pris par Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, pour évoquer des armes susceptibles de provoquer la mort sans l'intention de la donner. Pour terminer, je voudrais seulement remarquer que Emmanuel Macron, lui, n'a pas cédé à la tentation d'utiliser ce type de grenade pour se débarrasser du trublion que, faute d'avoir le compas dans l'œil, il avait admis dans son premier cercle. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Philippe, 11h30 sur RTL. Vous serez avec nous ?
Mais j'y compte bien.
À dimanche et dans un instant, le grand jury RTL, Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche. L'invité sera le maire de Pau et président du Modem, François Bayrou. Mais avant, fait un point sur l'info. RTL, il est midi.